France Culture.
Esprit de justice qui vous propose ce soir une discussion qui va illustrer l'importance, la fécondité de l'approche de droit et littérature. On va en effet s'intéresser aux relations entre vengeance et miséricorde, quoi, miséricorde, merci, dans le théâtre de Shakespeare. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas des juristes qui sont le plus souvent cités dans les décisions de la Cour suprême des États-Unis, mais Shakespeare, auquel il est fait mention plus de 800 fois. Et c'est pas étonnant, tant dans son œuvre, on trouve des questions juridiques qui contribuent à la mise en intrigue des affaires humaines. Mais ces références s'expliquent également parce que le dramaturge anglais ne cesse d'instruire au fil de ses pièces une question fondamentale, celle de la justice et de son autre, de son au-delà, de son dépassement. Son œuvre s'éloigne en effet de la revenge tragedy élisabéthaine qui avait cours avant lui, c'est-à-dire littéralement les tragédies de la vengeance, en plaçant au cœur de ses intrigues la mercy. Je le dis en anglais parce que on verra que ce terme est difficile à traduire. De Hamlet à Mesure pour mesure, Le marchand de Venise jusqu'à La tempête et bien d'autres encore, ce thème de la mercy traverse toute son œuvre. Alors, comment traduire ce terme en français ? Clémence, mansuétude, générosité, grâce, pardon, miséricorde. Tous ces termes se retrouvent dans les traductions et pourtant aucun n'est véritablement satisfaisant. Aucun ne parvient à saisir la force de ce mot. Et je crois que pour le comprendre, il faut l'opposer à ce à quoi il s'oppose, c'est-à-dire au formalisme juridique, à la rigidité des règles, mais aussi à la vengeance et à la justice entendue dans son sens institutionnel. Alors voilà la définition, une des définitions qu'en donne Shakespeare, où il dit « la vertu de mercy » et de n'être forcée. Elle descend comme la pluie du ciel sur ce bas monde. Elle est double bénédiction. Elle bénit qui la donne et qui la reçoit. Elle est la plus forte sur les plus forts et sied mieux que la couronne au monarque sur son trône. C'est la tirade de Portia dans Le marchand de Venise. Alors, Esprit de justice vous propose ce soir d'approfondir cette notion centrale de miséricorde chez Shakespeare en compagnie de deux intellectuels qui se sont penchés sur cette question, en l'occurrence Frédéric Croulet, philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure, qui enseigne la philosophie en classe préparatoire à l'Institut Sainte-Marie à Lyon, et Michael Fodor, franco-américain, qui, après avoir soutenu une thèse de littérature française à Harvard, enseigne les humanités à l'Université catholique de Lyon. Et tous les deux travaillent ensemble, c'est pour ça que je les ai invités tous les deux. Ils travaillent ensemble depuis des années à ce qu'ils nomment la Mercy Comedy.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, Frédéric Croulet, j'allais dire des spécialistes. Mais non, précisément, vous revendiquez le fait qu'en tant que philosophe, vous pouvez lire aussi Shakespeare, dire quelque chose de lui.
Disons que s'il y a une raison d'être de l'érudition académique, c'est qu'elle offre la possibilité à d'autres de profiter de ces travaux qui sont absolument remarquables. Tous les travaux produits en France, en particulier sur Shakespeare depuis 20 à 30 ans.
Qui sont énormes.
Et ce qui nous permet d'avoir deux éditions bilingues de Shakespeare, une en bouquin, une en pléiade, toutes les deux vraiment admirables, qui permettent à de modestes intellectuels de province, comme nous, de s'approprier la pensée de Shakespeare pour y discerner des réponses aux questions que nous posons.
Dois-je comprendre qu'on considère qu'Harvard est une lointaine province de Paris, Michael Fodor, vous êtes spécialiste de littérature française que vous avez soutenue aux États-Unis.
Tout à fait. Mais je suis là pour parler d'un auteur que j'ai l'occasion d'enseigner, deux fois par année avec des étudiants de licence. S'agissant de Shakespeare, donc.
En tant qu'anglophone, il est si facile que cela à lire Shakespeare ?
Non. Absolument pas. Il est de plus en plus difficile à lire, même pour les anglophones, parce que Shakespeare parle le meilleur des anglais, et ce qui fait la force de l'anglais, c'est que vous avez tout l'allemand et tout le français. Et ce qui pose problème aujourd'hui pour les anglophones, c'est qu'ils parlent de moins en moins français, alors que Shakespeare maîtrisait parfaitement le français. La complexité de la langue de Shakespeare est due en large partie à sa maîtrise du français. Ah oui. Donc, les Français ont un certain avantage, disons, pour lire Shakespeare.
Et pourtant, il se croit obligé de répéter le mot d'origine française et le mot d'origine saxonne pour être compris de son public à plusieurs reprises de son œuvre.
Alors vous avez tout à fait raison. On peut prendre peut-être un exemple. Alors, nous n'allons pas en parler tant que ça ce soir, mais un exemple classique serait les mots freedom, liberté, oui, et liberty, liberté. Et bon, je pense que une façon de s'en sortir serait de dire que Shakespeare privilégie le français pour une façon de parler plus solennelle, plus protocolaire, et il choisit l'origine germanophone, donc freedom, lorsqu'il veut parler de façon, disons, un peu plus commune.
Est-ce que c'est toujours pas comme ça C'est pas toujours comme ça en anglais, l'anglais contemporain,
Michael Fodor? Je dirais généralement oui. Si on prend la question de la gastronomie, c'est la différence oui, entre pork et pig, beef et cow, oui.
Alors, venons-en à la Revenge Tragedy.
Tout à fait. Alors, donc, on va essayer de situer un petit peu le contexte dans lequel Shakespeare travaille. Alors, Shakespeare naît en 1563 et autour des années 1580, les Anglais vont inventer un nouveau genre théâtral qui va faire fureur. Et c'est ce que les historiens de la littérature anglaise aujourd'hui appellent la Revenge Tragedy. Alors, qu'est-ce que c'est que la Revenge Tragedy? C'est une pièce donc qui commence avec un meurtre. Ensuite, on a la personne assassinée qui demande la vengeance. Ça se passe souvent à travers le fantôme de la personne tuée. Ensuite, beaucoup d'obstacles posés à l'exécution de la vengeance. Et enfin, la fin heureuse, si je puis dire, la vengeance s'accomplit.
Voilà. Mais alors, on voit un peu de ça dans Hamlet. Il y a le fantôme qui revient, ça c'était un trope de la Revenge Tragedy.
Exactement, le genre dont part Shakespeare, c'est la Revenge Tragedy, mais c'est une sorte de Revenge Tragedy dans laquelle il y a des dysfonctionnements par rapport au modèle de la Revenge Tragedy, et c'est ces dysfonctionnements qui nous ont alertés. Alors le premier dysfonctionnement, c'est que le père d'Hamlet lui apparaît pour révéler qu'il a été assassiné, et que l'homme qui l'a assassiné, c'est son frère, que ce frère du père d'Hamlet, donc l'oncle d'Hamlet, a épousé ensuite la reine, et par là est devenu roi, est devenu le beau-père de son neveu. Et donc, ce spectre demande à Hamlet de le venger, mais, anomalie, il dit, par contre, tu ne touches pas à ta mère. Or, à ce moment de la pièce, on sait que Hamlet voue à sa mère une haine inexpiable. Il la déteste. Il tient sur elle des propos injurieux, il considère qu'elle a souillé la couche nuptiale en se remariant avec son beau-frère. C'est une monstrueuse transgression à ses yeux d'épouser le beau-frère, etc. Donc il la déteste, et par la suite, le récit d'Hamlet, on peut le lire comme étant non seulement le récit de la vengeance du père d'Hamlet par Hamlet, mais aussi un travail progressif de réconciliation entre Hamlet et sa mère. Et cela compte autant que l'autre partie.
Michael Fodor. Je voudrais rebondir là-dessus. Frédéric a prononcé le mot de réconciliation qui me semble absolument essentiel dans le parcours que va accomplir Shakespeare. Si on revient...
Hamlet. Le personnage d'Hamlet.
Le parcours de Shakespeare entier.
En entier.
En entier. Je m'explique. Notre hypothèse de travail, c'est que Shakespeare refuse d'une certaine façon le paradigme de la revenge tragedy. Il va chercher une alternative. Et ça va l'amener, à travers des tentatives, des tests différents pour trouver une solution. Il y a Hamlet, il y a le marchand de Venise, il y a mesure pour mesure. Et notre hypothèse, c'est qu'il ne trouve la solution que dans les trois dernières pièces, la trilogie finale, Cymbeline, le conte d'hiver et la tempête, qui mettent fortement en avant la mercy, la miséricorde, donc, et qui sont des non seulement des mercy comedies, mais je dirais, à la suite de Frédéric, des comédies de la réconciliation. La fin, c'est la réconciliation, le moyen, c'est la miséricorde.
C'est très fort le thème de réconciliation.
Pour le dire en d'autres termes, oui. Shakespeare est rentré, a commencé son œuvre avec des genres qui ne convenaient pas forcément à son propos, la merci, et progressivement, il va être obligé d'élaborer de nouvelles formes adaptées à ce qu'il avait de plus profond à dire.
Alors, oui, on va commencer donc, on avait commencé par Hamlet. Alors, en quoi Hamlet excède une revenge tragedy?
Bien, parce que, à mon sens, c'est une interprétation évidemment, il y a des passages décisifs dans Hamlet où Hamlet, par exemple, va commettre une faute qui va entraîner, si je puis dire, la spirale tragique. Et sa faute, c'est il va au-delà de la vengeance ordinaire. Il y a deux scènes très importantes. Acte 3, scène 3. Hamlet a vraiment commencé à préparer cette vengeance qu'il doit accomplir en s'assurant que le spectre n'a pas menti. Ça, c'est très important. Parce que un spectre, ça peut être un envoyé du démon, comme ça peut être une âme du purgatoire qui, dans ce cas-là, pourrait avoir une volonté juste. Et il doit s'assurer que le spectre n'est pas un menteur manipulateur, et pour cela, il doit tester par lui-même le Claudius et faire en sorte qu'il se dénonce. Et Claudius va se trahir en réagissant de manière terrible lorsque Hamlet va faire jouer sous ses yeux la scène du crime.
Mais alors, du coup, tout est prêt pour la vengeance.
Et à ce moment-là, Hamlet surprend Claudius en prière, il sait qu'il doit le tuer, mais Claudius est en train de prier, et que dit Claudius? Claudius prie et il commence à éprouver des remords, il se tourne vers Dieu, et il se dit d'abord lui-même, à quoi sert la miséricorde, mercy, si ce n'est à affronter le visage du crime? Et qu'y a-t-il dans la prière, si ce n'est cette double vertu, de nous retenir avant la chute, ou de nous faire pardonner après? Hamlet voit ça et il se dit qu'il ne peut pas tuer à ce moment-là Claudius parce que ce sera envoyé Claudius au paradis. Donc il va se rétracter. Et l'ironie du sort, c'est que Claudius, prolongeant sa prière, se prend conscience que s'il veut vraiment être pardonné, il faut qu'il répare l'offense. Réparer l'offense, ça veut dire renoncer à la femme qu'il aimait éperdument pour qu'il a commis le crime, qui est Gertrude, et ça veut dire renoncer au trône.
On trouve un vocabulaire très moderne, celui de la réparation, celui de regarder en face le crime qu'on a fait, de la prise de conscience, Michael Fodor. On retrouve beaucoup de choses qui sont les mêmes principes qui aujourd'hui dévient d'une justice vengeresse.
Tout à fait. Si on va à la fin de la pièce, l'acte 5, l'acte 5 se termine sur un duel que les amateurs de western apprécient toujours. Donc, nous avons dans ce duel Hamlet qui se bat avec un autre jeune homme, Laërte, qui cherche aussi à se venger, puisque Hamlet a tué accidentellement le père de Laërte. Le duel est truqué, l'épée est empoisonnée, Laërte va tuer Hamlet et Hamlet va tuer Laërte. Ils sont tous les deux mourants et c'est ici qu'on annonce pour vraiment la seule fois dans Hamlet, la présence de la miséricorde. Je lis ce que dit Laërte. Donc, on va voir qu'il y a deux temps dans l'affirmation, l'énonciation de Laërte. Un, il propose le pardon. Et deux, il propose de sortir du cycle de la violence vindicative. Je lis ce que dit Laërte. échange ton pardon avec le mien, noble Hamlet. Donc, il est question du pardon mutuel. Et tout de suite après, il dit « Que ma mort et celle de mon père ne retombent pas sur toi, ni la tienne sur moi. » Donc, les miens ne toucheront pas aux tiens, les tiens ne toucheront pas aux miens. On est sorti, semble-t-il, on annonce une sortie du cycle du mauvais infini de la vengeance.
Ça a écroulé.
Et auparavant, dans la relation d'Hamlet à Gertrude, sa mère, on était déjà sorti de cela dans une séquence centrale qui est juste après la tentative de meurtre, comment dire, éludée de Claudius. Lorsque Hamlet rencontre sa mère, il est convoqué par elle. C'est là qu'il tue Polonius en croyant tuer Claudius caché derrière le rideau en se disant « là, il vient de pécher, donc je peux le tuer ». Et à ce moment-là, il s'emporte contre sa mère qui lui demande des explications, qui est horrifiée par ce qu'il vient de faire. Et le spectre réapparaît. Il intervient. Et c'est le spectre qui va arrêter la colère d'Hamlet. Et c'est alors que Gertrude se demande s'il n'est pas fou, Hamlet se reprend et le spectre dit à Hamlet, parle avec elle, parle, rentre dans une relation de dialogue, amène-la à avouer sa faute pour pouvoir la pardonner.
Alors, je pense à la tragédie grecque et je m'adresse à vous deux. Quelle différence, parce que dans le fond, la fin du cycle de violence des Atrides, c'est les Euménides, on est dans Échille, c'est-à-dire que c'est le problème des hommes, c'est comment sortir de la violence. Il y a ce cycle de violence de Clytemnestre, de Agamemnon, etc. Et Athéna en sort par la justice. Et là, quelle différence il y a, Frédéric Roulet, avec cette sortie shakespearienne de la violence?
Il me semble qu'il y a de grandes différences. Il faudrait que je relise tout le cycle des Euménides. Pour moi, la différence, c'est qu'il y a un fond chrétien dans Shakespeare, précisément avec ce concept de merci, qui est pensé en termes essentiellement chrétiens. Si on reprend la relation d'Hamlet à Gertrude, la scène, acte 3, scène 3, c'est une scène de confession. Gertrude avoue. Hamlet lui donne l'absolution, et à la fin, elle va même avoir une pénitence à accomplir. Elle ne devra plus coucher avec Claudius. La relation conjugale pourrie de remariage avec le meurtrier de son mari, c'est fini. Voilà. Et d'ailleurs, elle va s'y tenir.
Vous acceptez, Michael Fodor, cette définition chrétienne de Shakespeare?
Oui. Et si on regarde, à mon souvenir, la tirade d'Athéna, donc la tirade finale où elle instaure la justice, à mon souvenir, donc, il y a un alignement d'adjectifs, il y en a trois ou quatre, et l'adjectif qui m'a retenu, c'est « impitoyable ». La justice athénienne sera X, Y, Z et impitoyable. Et en fin de compte, donc dans la trilogie finale, Cymbeline, le conte d'hiver et la tempête, il n'est plus question d'être impitoyable, au contraire.
C'est ça, Frédéric Roulet.
Pour revenir à Hamlet, voilà, j'ai retrouvé le passage. Hamlet dit à sa mère, « Confessez-vous au ciel, confess yourself to heaven. Ouais. » Repent what's past. Repentez-vous du passé. Et prévenez l'avenir. Il va la mener à une confession de ses péchés qui appelle une rédemption. Alors, ça, c'est foncièrement chrétien. Et c'est d'autant plus ironique qu'on est dans une Angleterre protestante où les catholiques sont clandestins, etc. Et Shakespeare réinjecte, si je puis dire, des idées catholiques dans l'Angleterre protestante, dans ce contexte.
On l'a suspecté, on l'a accusé. Il s'est protégé des accusations, d'ailleurs, d'être un crypto-catholique, Michael Fodor.
Au point que Chateaubriand et Victor Hugo, d'ailleurs, pensaient qu'il était catholique. Et on a retrouvé cette théorie. Elle est revenue en surface dans les années 2000, etc. Donc maintenant, les scholars sont plus réservés, mais disons que l'important, c'est qu'il réinjecte les idées qui l'intéressent du catholicisme, quand il en a besoin. Et l'idée d'une confession qui amène le plein pardon, ça l'intéresse, et il le garde. Thank you.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur les rapports entre la vengeance et la miséricorde dans le théâtre de Shakespeare en compagnie de Frédéric Roulet, philosophe, et de Michael Fodor, littéraire franco-américain qui enseigne la littérature, et Michael Fodor qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Robert Johnson, Where the Bees Sucks, qui était en l'occurrence interprétée par la soprano Lynette Saul. Pourquoi ce choix, Michael Fodor ?
Donc, c'est une chanson chantée par Ariel, qui est un des grands personnages dans La Tempête. Il chante cette chanson au moment de sa libération. Prospero va libérer Ariel et il chante sa joie. Alors, on va en reparler de La Tempête plus en détail dans quelques minutes, mais j'aimerais insister sur un peu de vocabulaire dans cette chanson. Ariel dit « I shall live merrily now ». Merrily, 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 qui répète trois fois. Alors, « merrily », c'est un adverbe qui vient de l'adjectif « merry », qu'on connaît par exemple par « Merry Christmas ». Et cet adjectif permet de faire un lien avec un professeur du Collège de France qui a travaillé sur Shakespeare. Donc Michael Edwards a travaillé sur les tragédies et les comédies de Shakespeare. Il a écrit deux livres et dans son livre sur la comédie, il propose une théorie de la comédie qui interfère de manière intéressante avec notre hypothèse de travail. Lui, il propose de voir trois sortes de comédies, ou plutôt trois moments de la comédie. Le premier moment, c'est ce qu'il appelle le moment de la joie allègre, et en anglais, ça se dit mirth, qui est le substantif qui va donner l'adjectif merry, qui va donner ensuite l'adverbe merrily. Et donc, le premier temps de la comédie, en fait, c'est ce temps d'Ariel que l'on vient d'entendre, de la joie allègre. Le deuxième temps de la comédie, dit Michael Edwards, est le moment où la joie rencontre la réalité ou la tristesse. Et on a à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler le moment d'une comédie partagée, réaliste. Et le troisième moment qu'il propose, c'est qu'il faut arriver à dépasser ce moment du rire partagé pour aller vers ce qu'il appelle le rire de l'émerveillement. Son livre porte le titre « La comédie de l'émerveillement ». Donc le mot en anglais c'est « wonder ». Et je pense qu'on peut dire, on peut affirmer que les trois comédies finales de Shakespeare, donc les trois « mercy comedies », les trois comédies de la miséricorde sont des comédies de l'émerveillement.
De la joie retrouvée, de la justice dépassée, Frédéric Roulet.
Oui, c'est-à-dire que je voudrais en profiter pour souligner que Shakespeare, tel que nous le lisons, nous aide à remettre en question ce que Léo Strauss considérait comme un des plus grands présupposés douteux de la pensée moderne, qui est que souvent nous considérons que la profondeur est du côté de la tristesse plutôt que de la joie, que les tragédies disent plus profondément la réalité de l'humain que les comédies. Et c'est fort discutable, dit Léo Strauss, on pourrait citer pas mal de penseurs qui vont dans ce sens, de Platon à Spinoza et bien d'autres. Même Nietzsche, hein, qui va dans ce sens. Nietzsche qui commence par la tragédie, mais qui finalement dit que, ben non, c'est plutôt la joie qui est plus profonde que l'expression de la souffrance. Et je pense qu'il y a quelque chose de cela dans Shakespeare si on ne s'arrête pas à ces tragédies, si on se tourne vers ces comédies.
Pour trouver ce dénouement de la miséricorde, ce dénouement par la miséricorde, il faut être passé par cette rigueur de la justice, cette dureté, par l'épée empoisonnée, et ça va être formidablement mis en scène dans Mesure pour mesure.
Exactement, il faut passer par la confrontation au mal, et le rôle de la justice, c'est de nous délivrer du mal. Et le problème de la justice pénale, c'est qu'on délivre du mal, mais en infligeant un mal physique qui est la peine.
Et donc il y a un enchaînement, on pourrait dire, quasi absurde.
Oui et non. La justice n'est pas quelque chose d'absurde.
Non, quasi.
Chez Shakespeare. Et pas pour vous, j'espère. Et Mesure pour mesure, c'est une pièce extrêmement intéressante parce que son titre en lui-même est à double sens. Spontanément, quand on lit Mesure pour mesure, on pense tout de suite à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et donc à l'Ancien Testament où figure cette loi du talion, qu'on comprend d'ailleurs souvent de manière un peu superficielle. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, Mesure pour mesure, ça renvoie plus encore à l'Évangile, au Nouveau Testament, et à ce qu'on pourrait appeler la loi de miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de miséricorde? C'est la loi suivante. Soyez miséricordieux et vous recevrez miséricorde. Ce qui se complète de la manière suivante. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés, car de la mesure dont vous jugerez, vous serez vous-même jugé.
Et c'est de cette mesure-là qu'il s'agit.
C'est de celle-là dont il s'agit. Mais alors, avant tout, il s'agit aussi de...
Bien sûr, expliquez-moi, parce que c'est quand même c'est une pièce dans laquelle il y a un personnage épouvantable, Angelo. Angelo, d'ailleurs, qui veut dire la demi-mesure à l'époque. et qui réclame une justice impitoyable. Exactement ce que disait alors, Michael Fodor à l'instant.
Alors, je parlais du catholicisme tout à l'heure, parce que c'est une pièce étrangement catholique. En 1603, la reine Élisabeth vient de mourir, c'est elle qui a fait du protestantisme la religion d'État.
L'anglicanisme.
Voilà, l'anglicanisme, on peut en discuter, le terme anglicanisme est plutôt du 19e siècle. Non. Bon, c'est déjà une reconstruction, mais peu importe. Et là, avec le changement de roi, il y a une période d'assouplissement, et visiblement, il y a une volonté d'avoir un autre regard sur le catholicisme. Parce qu'en fait, il y a trois personnages essentiels dans la pièce qui se complètent. Il y a Angelo, qui est impur, qui veut appliquer une loi stricte.
Oui, pas si pur que ça, mais enfin bon, qui se prétend
puritain.
Pur. Un puritain.
Alors,
oui.
Puritain, c'est malheureux.
Pas dans le sens religieux du terme.
Dans le sens religieux du terme, ça convient pas très bien.
Alors, il y a Angelo. Il y a Angelo.
Il y a le duc sur lequel on reviendra, qui est le souverain d'Angelo et qui cède quelque temps sa place à Angelo. D'ailleurs, pour évaluer la capacité d'Angelo à exercer le pouvoir. Angelo est son cousin, il veut tester ses capacités de gouverner. Il veut également profiter d'Angelo, de sa sévérité pour mettre un peu d'ordre dans le royaume. Et le troisième personnage, c'est Isabella, qui est une religieuse, une novice, et qui va tenir un discours extrêmement construit sur l'idée de mercy.
Alors, alors avant d'en arriver là, pour nos auditeurs comprennent bien l'intrigue, en fait, un garçon, un jeune noble, mis enceinte Isabella, Juliette. Ouais, voilà. Et pour ce crime, Angelo veut lui couper la tête. C'est ça.
Ce qui paraît extravagant à tout le monde.
À tout le monde, bien sûr.
La première action d'Isabella, il l'a mis enceinte et il va épouser. Et puis on n'en parle plus. Ce que tout le monde fait.
Et ils sont d'accord pour s'épouser, en plus.
Depuis 1500 ans, oui, ils sont d'accord. C'est ce que tout le monde fait depuis que l'Europe est christianisée. Il n'y a aucun problème. Et en fait, Angelo a décidé de remettre en vigueur des lois tombées en désuétude, de telle sorte que sa sévérité paraît absurde à tout le monde. Il n'y a que lui qui y tienne.
Fodor.
Si je peux essayer de synthétiser un petit peu dans votre sens, on a effectivement au départ le laxisme du duc. On a ensuite le rigorisme d'Angelo et il s'agit de trouver une solution, un équilibre entre laxisme et rigorisme. Et je signale en passant qu'un personnage secondaire, mais qui d'une certaine façon représente la mesure ou la sagesse dans la pièce, en anglais c'est Aeschylus, ça s'écrit E-S-C-A-L-U-S. L'anglais entend tout de suite « scale », c'est-à-dire « balance de la justice ». Et d'autre part, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, « Aeschylus », c'est « Échille » en anglais.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, ce travail, cette lutte pour trouver un équilibre entre laxisme et rigorisme, ne sera, je dirais, alors ça dépend des interprétations, qu'à demi réussi à la fin de la pièce, parce que le duc va effectivement marier les uns et les autres.
Voilà. Et donc, c'est finalement par la mercy qu'on va s'en sortir, Frédéric Roulet.
Oui, mais par des détours.
Oui.
Isabella va plaider la cause de son frère auprès d'Angelo, qui dispose du pouvoir absolu en l'absence du duc. Et Isabella avance des arguments qui sont très construits. Isabella est visiblement une bonne théologienne. C'est une tête bien faite, vous voyez. Enfin, bien faite, d'un point de vue catholique.
C'est ça.
Ce qui est assez remarquable dans le contexte élisabétain ou post-élisabétain. Et son argument consiste à dire que chacun sera jugé par Dieu comme il a jugé son prochain. Or, toi-même, dit-elle à Angelo, si tu n'es pas irréprochable, prends garde, parce que Dieu te jugera aussi, donc tu dois pardonner cette faute, c'est ton intérêt. Donc, elle raisonne, vous voyez, vraiment très précisément à partir de la loi de miséricorde
évangélique. Pardonner par intérêt.
Avoir le souci du salut de l'âme, c'est un intérêt qui n'a rien d'égoïste, qui est chaudement recommandé par toutes les doctrines, toutes les variantes de la doctrine chrétienne. Ça n'est pas un souci. Le point, c'est que tous les deux sont d'accord pour dire que Claudio a commis un péché, mais c'est la question de la sanction de ce péché. Et évidemment, Isabella appelle à la miséricorde au nom de la conscience du péché. Aie conscience que toi-même, tu es pécheur.
Et puis, plus tard dans la pièce, le duc qui fait son très lent chemin vers la miséricorde va en fait condamner Isabella, et ce n'est que lorsque Mariana et Isabella, toutes les deux, demandent le pardon d'Angelo, c'est-à-dire qu'Isabella a fait le travail sur elle-même, elle demande le pardon d'Angelo, ce n'est qu'à ce moment-là que le duc passe... Un petit peu du côté de la miséricorde.
Il y a un point qui va nous intéresser beaucoup, qui va faire avancer notre compréhension de la mercy, c'est que ça se termine par des mariages. Ouais. Et que là, la miséricorde, finalement, il y a une transformation, une conversion, on pourrait dire peut-être une inversion de la peine, de la sanction, de la négativité dans les unions. Et ce sont les différentes unions, on ne va pas rentrer dans le détail. Michael Fodor.
Il y a quand même Il y a quand même un gros détail qu'on ne doit pas oublier, c'est que Isabella plaide en vain la cause de son frère auprès d'Angelo, mais celui-ci la soumet à un odieux chantage,
qui est le...
puisque Angelo, ironie du sort, qui se croyait au-dessus de toute faute, de tout péché, tombe éperdu de désir, on va pas appeler ça de l'amour pour Isabella, et va lui proposer le marché suivant. Je gracie ton frère si tu acceptes de coucher avec moi.
Voilà. Alors, je reviens à votre question du mariage. Vous avez tout à fait raison soulever cette question parce que, en principe, toute comédie doit se terminer dans le schéma idéal typique par des mariages. Or, ce que l'on voit, dans Mesure pour mesure, il y a des mariages, mais qui où un des partis n'est pas consentant. Ce sont des mariages forcés. Ce ne sont pas des mariages libres. Et donc, cette pièce, cette comédie se termine de façon un petit peu bizarre. Ce n'est pas une mercy comedy au carré, d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, dans la dernière mercy comedy, c'est-à-dire La Tempête, il y aura trois mariages et ces mariages sont consentis.
Mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette substitution de la vie, de la natalité, on dirait Anna Arendt, pour sortir de cette impasse de la violence réelle ou de la violence institutionnelle, de la justice, Frédéric Roulet.
Alors, il faut voir que dans Mesure pour mesure, le climat est lourd dans l'ensemble.
Oui.
Donc, c'est nous qui parlons de mercy comédie, parce que c'est notre lecture. Mais nous ne voulons pas,
on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. On est dans une problem play.
Ouais.
À un moment
problem
particulier.
Problem play, c'est-à-dire une pièce qui pose un problème.
Qui est entre des genres.
Voilà, c'est une pièce qui. Voilà. Dont l'interprétation, en tout cas, est problématique, qu'on ne peut pas classer précisément dans un genre. Et qui d'ailleurs soulève un problème. Elle reste un peu en suspens.
Oui, alors c'est ça. Mais ça veut dire que pour la compréhension, ce qui est intéressant dans cette pièce, mais c'est, outre la complexité de l'intrigue, c'est que la merci, c'est pas une pondération de la justice, c'est pas une modération, c'est pas de l'équité. La merci, c'est on sort du raisonnement de la justice pour aller totalement ailleurs. C'est ça la miséricorde.
Dans Mesure pour mesure. Je dirais que c'est très précis théologiquement. C'est peut-être presque trop précis. C'est-à-dire que la logique de la miséricorde, ça implique quand même l'idée de jugement. Tu seras jugé de la même mesure que tu as jugé les autres. C'est ce qui fait qu'à la fin, le duc jugeant Angelo lui dit « Toi, tu as condamné à mort quelqu'un pour avoir commis le péché de fornication. Donc moi, même si je te juge avec miséricorde, c'est en te punissant de la même mesure que je suis miséricordieux avec toi. » Et en fait, cela n'est dépassé que parce que Isabelle, qui a été infiniment plus outragée que n'importe qui...
Est très rigide aussi.
Oui, c'est une vraie religieuse du XVIIe siècle. Voilà. Elle n'a pas fait Vatican II. Voilà. Mais
Hamlet, Mesure pour mesure et Le Marchand de Venise ne sont pas encore arrivés à ce dépassement que vous indiquez. Et ce n'est que vraiment dans les trois dernières pièces qu'on arrive à ce dépassement.
Thank you.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de s'interroger sur ce sens particulier, extrêmement important, de la miséricorde dans l'œuvre de Shakespeare et son rapport avec la justice, en compagnie de Michael Fodor, qui est professeur de littérature, et Frédéric Croulet, qui est philosophe et qui a choisi de nous faire entendre cette messe, le Kyrie de cette messe à quatre voix de William Byrd, qui était en l'occurrence interprété par le chœur d'enfants de Christ Church d'Oxford. Alors pourquoi ce choix, Frédéric Croulet ?
Pour trois raisons. La première, c'est que William Byrd était le compositeur de la cour de la reine Élisabeth, contemporain de Shakespeare. La deuxième raison, c'est qu'ils ont même parfois collaboré, ou du moins Shakespeare a emprunté certaines musiques de scène à William Byrd. Et il y a une dernière raison, c'est que William Byrd, c'est un protestant qui s'est converti en secret au catholicisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a composé des musiques comme celle-ci qui circulaient clandestinement dans la minorité catholique anglaise. Et on a vu que Shakespeare a un certain intérêt. Il est assez écuménique, comment dire. Il cherche à dépasser les conflits. Et c'est comme ça qu'il en vient à tenir un discours sur le catholicisme, par exemple dans Mesure pour mesure, qui est plutôt bienveillant, me semble-t-il.
Oui. Alors, il pratique aussi un peu, pas le double langage, mais il pratique aussi les ambivalences, les interprétations multiples, pour se protéger d'ailleurs, en tant que, pour ne pas être censuré, pour ne pas être accusé, dans une période qui est particulièrement tendue, Frédéric.
Alors, il y a une thèse de Shakespeare crypto-catholique qui circule, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je ne vais pas m'engager sur ce terrain, c'est après tout une construction d'hypothèse, par principe ça ne pouvait être que clandestin, et en revanche, qui est important de bien voir et qui est certain pour le coup chez Shakespeare, c'est un humaniste au sens d'Érasme, au sens de Montaigne. D'ailleurs, il admire
beaucoup
Montaigne. Il a lu Thomas More également. Donc, et cet humanisme veut apaiser les tensions religieuses.
Ça explique tout à fait votre théorie sur la miséricorde comme sortie de la vengeance, comme sortie de la justice dans le théâtre de Shakespeare.
Et comme discours chrétien commun aux diverses confessions. C'est par...
Le consensus par recoupement de...
C'est-à-dire que la miséricorde, tout le monde reconnaît qu'elle est valide. On s'écharpe sur savoir en quoi consiste la grâce, l'articulation de la grâce et la liberté. On est capable de s'entretuer sur des formules dogmatiques. Mais pardonner et vous serez pardonné, tout le monde sait que c'est valable.
Et on retrouve ça à la fin de Mesure pour mesure. C'est une glorification de la vie. Dans le fond, de la vie et du dépassement du caractère mortifère de la justice par la vie.
Alors, plutôt dans la tempête que dans Mesure pour mesure.
C'est peut-être là qu'il faudrait faire quelques distinctions conceptuelles très importantes.
Je vous écoute.
Je pense qu'il faut distinguer tout ce qui est premièrement de l'ordre de la pitié et de la compassion. La pitié et la compassion, c'est naturel, c'est de l'ordre de l'affectif et du sentiment. C'est de partout, en toute personne. Ça peut même être présent chez les animaux jusqu'à un certain point. La deuxième dimension, c'est la clémence. La clémence, ça, les juges aiment beaucoup.
C'est la modération.
C'est un concept. C'est la modération dans l'exercice de la justice. Donc, c'est une modalité de la justice qui a été théorisée par Sénèque dans le traité de la clémence. Et Sénèque dit expressément que la clémence n'est ni la compassion, ni le pardon. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'infliger des peines avec modération en prévoyant que cette modération va permettre à la personne condamnée de réparer mieux sa faute que si elle était condamnée sévèrement. Donc c'est un calcul d'intérêt ayant pour but le bien de la société qui amène à cette clémence.
La miséricorde, c'est autre chose.
Et la miséricorde, c'est quelque chose de plus profond. Qui peut inclure, contrairement à la clémence, cette dimension de pitié. Elle englobe la pitié, mais elle implique, comme la compassion, une certaine identification à l'autre, mais la volonté de pardonner une offense parce qu'on reconnaît soi-même que, comme l'autre qui a offensé, on est capable d'offenser. Et donc, c'est cette conscience de sa propre faillibilité, de sa propre corruptibilité qui amène à cette prise de conscience et à la miséricorde.
Finalement, Michael Fodor, c'est toujours cet humanisme qui est si important chez Shakespeare. C'est au nom de cet humanisme et il a cette phrase dans la tirade de Portia que je rappelais en commençant. Il dit « Elle bénit qui la donne et qui la reçoit ». C'est-à-dire que c'est une sortie par le haut, c'est comme ça que je l'ai compris, du moins, c'est une sortie par le haut de la vengeance.
Tout à fait. Je crois que c'est le moyen de la réconciliation ou si vous voulez, d'un recommencement. On ne revient pas à la situation initiale. On a fait un dépassement et on peut maintenant recommencer à vivre ensemble de manière réconciliée.
C'est ça.
Et on voit ça, je crois, très très bien à la fin de la tempête. Mais
alors ça, c'est un moment essentiel, la fin de la tempête.
Un moment de la fin de la tempête, tout à fait essentiel, surtout si on va jusqu'au bout de la tirade de Portia dans le Marchand de Venise.
Oui.
Parce que Portia, elle dit aussi que la merci est l'attribut de Dieu même.
Oui, et c'est donc oui.
Ça fait partie de l'essence même de Dieu d'être miséricordieux, et elle continue en disant que et c'est la prière même qui nous enseigne à tous à faire acte de miséricorde. Et là, il y a une allusion directe au Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonner l'offense.
Et c'est ce qu'on
le
va...
pardon reçu de Dieu
c'est
dépend
ça.
Du pardon que l'on offre.
Et
à
c'est
ceux
ce qu'on
qui nous
va
fait
retrouver,
et c'est ce qu'on va
retrouver à la fin de la tempête.
Donc, à la fin de la tempête.
Je rappelle brièvement.
C'est ça, rappeler cette place particulière.
Prospero, donc un duc italien, a été chassé du pouvoir. Il est sur une île. Par sa magie, il arrive à attirer, on va les appeler les méchants, sur l'île. Il va les mettre à l'épreuve et à la fin. De l'acte 5, donc juste après la libération d'Ariel qu'on a écouté tout à l'heure, il va effectuer 3 pardons. Alors c'est assez intéressant de voir les différents niveaux de pardon. Il va d'abord pardonner à un des hommes qui demande le pardon. Donc ça, c'est relativement facile à accomplir. Le deuxième homme, au contraire, ne demande pas pardon. Pourtant, Prospero va lui accorder le pardon. Et enfin, troisième cas, le plus problématique, c'est Caliban, c'est le natif de l'île, qui a voulu tuer Prospero. Et Prospero, là, passe, disons, dans le mode du futur. Il lui dit, je te pardonnerai au futur si tu recherches la grâce, grace en anglais. Donc, les trois pardons ont été effectués et on arrive à l'épilogue qui est le moment absolument clé. C'est les derniers mots de Shakespeare puisque c'est la dernière pièce de Shakespeare, la dernière pièce qu'il a écrite en entier.
Ce sont ses adieux au théâtre.
Absolument. Moi, je vais appeler ça le testament. Alors, et on peut regarder ça un petit peu.
Alors, on va regarder ça dans le détail.
On va se faire gronder un peu par les scholars de nos jours qui disent que c'est une lecture un peu classique.
Ouais, mais il y a beaucoup de lectures de Shakespeare.
Oui, c'est une lecture quand même classique.
Frédéric,
et c'est pas faux de dire que c'est la dernière pièce entièrement de la main de
Shakespeare. Alors, c'est quand même intéressant parce que cette dernière pièce se termine sur un pardon, sur ce triple pardon. Donc ça, c'est un aboutissement dans l'œuvre de Shakespeare qui se termine par un triple pardon, mansuétude.
Je vais confirmer ce que vous dites en lisant les deux derniers vers de l'épilogue. Donc c'est les deux derniers vers de la dernière pièce de Shakespeare. Je vais devoir corriger la traduction française un petit peu.
Lire en anglais d'abord et puis
Je vais lire la traduction française et je vais corriger ensuite. Donc les deux derniers vers, c'est Prospero Shakespeare qui parle à ce moment-là. Si vous voulez que vos offenses vous soient pardonnées, daigne votre indulgence m'absoudre. Alors, deux choses à dire ici. D'abord, corriger la traduction, parce que le « daigne votre indulgence m'absoudre » de François-Victor Hugo est un peu romantique et renvoie à Villon. L'anglais, c'est « let your indulgence set me free ». Alors là, il y a donc deux temps qu'il faut bien comprendre. « Let your indulgence », c'est-à-dire permettez à votre indulgence, il s'est humanisé, il a humanisé la miséricorde ici, permettez à votre indulgence de me rendre libre. Et le dernier mot de la dernière pièce de Shakespeare, c'est free.
Liberté.
Libre, grâce à la miséricorde.
Alors, Frédéric Croulet.
Et juste avant, enfin, les quatre vers précédents méritent aussi d'être...
Absolument.
lu. Donc, et à la fin, je désespère, si ne me secourt la prière assez puissante pour forcer la mercy même et absoudre tous les péchés. Voilà. Donc là, les derniers vers, alors qu'on était dans un monde païen avec des sorcières, des magiciens, là, vous voyez, c'est Prospero qui devient le porte-parole de l'auteur-écrivain, qui s'adresse au public et qui prend un ton qui est là explicitement chrétien, puisqu'on se rappelle que la mercy itself, c'est le nom même de Dieu dans la tirade de Portia. C'est une manière de parler du Dieu chrétien et absoudre tous les péchés. Donc on est dans ce langage chrétien du pardon qui explique rétrospectivement le pardon total que donne Prospero à tout le monde, y compris à des gens qui méritent tout sauf le pardon. Des modalités très diverses.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, puisque ce sont les derniers mots de Shakespeare, dans la dernière tirade de la dernière pièce, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est finalement le dénouement de l'ambivalence, de l'ambiguïté qui parcourt tout la mercy et la justice dans l'œuvre de Shakespeare? Et que là, finalement, en quelque sorte, il abat les cartes, Michael Fodor.
Je crois qu'on peut effectivement regarder l'évolution. Au début, il y a la revenge tragedy, et on a parlé de Sénèque tout à l'heure. Celui à qui on doit la revenge tragedy, c'est Sénèque. C'est cet auteur latin qui a redécouvert ou inventé un théâtre de la violence et de la vengeance. Donc les Anglais prennent le chemin de Sénèque. Shakespeare va essayer de trouver autre chose. Il teste dans Mesure pour mesure, il teste dans Hamlet.
Marchand de Venise.
Et ce n'est qu'à la fin, dans ces trois pièces, qu'effectivement, on arrive à ce dépassement par la miséricorde, la réconciliation.
Et c'est encore plus remarquable si on revient aux premières œuvres de Shakespeare. Parmi ces premières œuvres, il y en a une qui est mal aimée, sur laquelle nous avons travaillé l'an dernier.
Voilà.
Titus Andronicus. Titus Andronicus.
Oui. Très peu connu, quoi, que relativement.
La première tragédie
de la vengeance dans toute son horreur.
Absolument.
Vous avez plusieurs personnages et puis ils se font couper des têtes, des mains. C'est affreux. Enfin, il y a de la viande sur la scène. Mais ce qui est absolument horrible d'une part, c'est que chaque personnage, à un moment, implore un autre. Et l'autre lui refuse sa pitié. C'est-à-dire qu'au début, la reine Tamora
c'est la passe de la violence.
Implorer la pitié de Titus, qui va exécuter son fils. Elle le supplie de ne pas le faire, et il l'exécute. Et l'exécution, c'est un sacrifice humain au Dieu.
Ça montre les origines sacrificielles de la justice, archaïque, on pourrait dire.
Et alors, ce qui est très bizarre dans cette pièce, c'est une scène qui, malheureusement, est parfois supprimée par les metteurs en scène. C'est terrible.
Il y a une scène qui paraît trop sanguinaire.
Non, pas du tout. C'est une scène où, pour diverses raisons, je crois que c'est Titus qui est devenu plus ou moins fou, décide de lancer une espèce d'assaut contre son ennemi et ils vont jeter des flèches. Et ils jettent des flèches même sur les dieux, tellement ils détestent Rome. Il a pris Rome qu'il avait servi en détestation et il tire sur les dieux de Rome et en disant « Débarrassons-nous de ces dieux, qu'est-ce qui pourra nous en délivrer ?» Et à ce moment-là apparaît un clown venu on ne sait d'où.
Un clown.
Qui transporte une... Oui, alors un clown, c'est une figure shakespearienne. C'est un personnage populaire, un peu comique. Et ce clown innocent arrive, il transporte un couple de pigeons avec lui, de tourterelles, symbole biblique. Et à la scène suivante, il va être exécuté par les ennemis de Titus. Il va être exécuté et il va s'exclamer « Mais pourquoi par Notre-Dame ? Pourquoi par Saint-Étienne ?» Donc, évocation chrétienne, dans ce monde de vengeance, il y a l'idée qu'il pourrait y avoir un autre monde fondé sur d'autres règles.
Alors, Michael Fodor, est-ce que ces trois dernières pièces, qui sont pour le coup des comédies de la mercy, de la miséricorde, ce sont aussi, et j'ai été intrigué par ce commentaire, une réconciliation entre Rome et la Bretagne, c'est-à-dire entre le monde latin et le monde saxon.
Alors, Cymbeline, vous avez tout à fait raison, donc c'est la première des trois dernières pièces, et c'est la plus politique des trois. Et on peut effectivement dire que cette comédie se termine par des mariages, mais surtout, toujours, comme vous venez de l'indiquer, un mariage politique. C'est-à-dire que au milieu de la pièce, on envisageait une indépendance de la Bretagne celtique, et à la fin de la pièce, on s'accorde à se réconcilier avec Rome, il y a un mariage en quelque sorte avec Rome.
Alors Frédéric Roulet, ça veut dire que derrière cette miséricorde qui est travaillée dans et qui travaille l'œuvre de Shakespeare jusqu'à cet aboutissement, il y a un projet politique, il y a une recherche d'apaisement, une recherche de paix civile finalement dans l'œuvre de Shakespeare.
Il y a une recherche politique manifestement, ce n'est pas anodin, vous êtes en 1608 puis 609. De parler d'une réconciliation entre la Bretagne celtique et Rome à l'époque de l'Empire romain, ça renvoie à une actualité, c'est une réconciliation éventuelle entre l'Angleterre et l'Église catholique. Et c'est transparent.
Et qui malheureusement, cette recherche de paix, on est au début du XVIIe siècle.
Elle va avoir des effets quelques années plus tard, oui. Puisque à cette époque, le roi d'Angleterre cherche une alliance soit avec l'Espagne, soit avec la France, et ça va se conclure par le mariage de Charles Ier d'Angleterre avec Henriette de France, qui aura le droit de pratiquer la religion catholique.
Oui, mais ça va se terminer aussi par une guerre civile malheureusement épouvantable qui va
déchirer
la Bretagne, comme le dit... Mais
parce que les protestants étaient moins ouverts au catholicisme que Shakespeare lui-même.
Un mot de conclusion, Michael Fodor, sur finalement ce message puissant. Et qui n'est pas transparent immédiat, mais qui en même temps est peut-être essentiel à notre temps, Michael Fodor.
Alors je pense effectivement qu'il faut lire ces trois pièces comme une trilogie. Lire la trilogie, Cymbeline, Le Conte d'Hiver et La Tempête. C'est là où Shakespeare dit son dernier mot de la réconciliation. On peut recommencer.
Et est lié à une vengeance possible, mais une vengeance sublimée, Frédéric Roulet.
Oui, lié à dépassement de la vengeance, lié à la conviction que ce que l'être humain a de plus profond à vivre et à porter, c'est ce qu'il vit dans l'expérience d'un vrai pardon offert et reçu.
Oui, et on pourrait faire le lien avec la gaieté dont vous parliez, la fin de La Tempête, Michael Fodor, cette gaieté retrouvée, cette vie retrouvée, cette vitalité.
Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Michael Edwards, il y a effectivement de la joie allègre, de la mirth, mais maintenant passe par la mercy. Et je vous rappelle que la plupart des Français ont beaucoup de mal à prononcer le TH. Oui. Donc le mirth prononcé par un Français se dit mirth. Et il y a très peu de distance entre mirth et mercy. Et Shakespeare a réussi à franchir cette distance.
Félix se coule pas, parce que finalement les Français font le lien entre la miséricorde et le bonheur. Merci beaucoup. Michael Fodor, Frédéric Roulet, Esprit de Justice. À la technique ce soir, il y avait Élise Leu. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.